la police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière guerre, un ancien colonel de SS, Eichmann, qui est à l'origine de la mort de 5 millions de juifs.
Ans d'histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 mai 1960, quelques minutes avant minuit, un avion Bristol de la compagnie El Al décollait de l'aéroport de Buenos Aires à destination de Tel Aviv. À son bord, un homme qui semblait avoir été drogué était accompagné par deux agents des services secrets israéliens déguisés en stewards. 9 jours plus tôt, ils avaient découvert et enlevé un des plus hauts responsables du régime nazi qui avait disparu depuis la fin de la guerre. Le 23 mai, devant son parlement, le Premier ministre israélien David Ben-Gourion annonçait la nouvelle. « Je dois informer la Knesset, disait-il, qu'un des principaux criminels de guerre nazi, Adolf Eichmann, est en Israël en état d'arrestation et sera jugé prochainement. » Presque personne jusque-là n'avait entendu parler de cet ancien lieutenant-colonel des SS, ni du rôle qu'il avait joué pendant la guerre dans le génocide des Juifs. C'est ce qu'allait révéler le procès d'Adolf Eichmann qui s'ouvrait le 11 avril 1961 à Jérusalem.
Mesdames, messieurs, honorables cours, devant vous se tient le destructeur d'un peuple, un ennemi du genre humain. Il est né homme, mais il a vécu comme un fauve dans la jungle. Il a commis des actes abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite plus d'être appelé homme, car il est des actes qui sont au-delà du concevable, qui se situent de l'autre côté de la frontière qui sépare l'homme de l'animal. Et je demande à la Cour de considérer qu'il a agi de son plein gré, avec enthousiasme, ardeur et passion jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner cet homme à la mort.
Et c'était le procureur général Hausner au début du procès d'Adolf Eichmann, une archive impressionnante tirée d'un film de Ronny Broman et Eyal Sivan. Adolf Eichmann, un spécialiste. Ronny Broman, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a 50 ans, donc, Adolf Eichmann était découvert et enlevé en Argentine le 20 mai 1960, avant d'être envoyé en Israël pour y être jugé. La nouvelle, à l'époque, a fait le tour du monde, mais si aujourd'hui tout le monde a entendu parler d'Eichmann, à l'époque, presque personne ne savait qui il était exactement.
Non, en effet, son nom avait à peine été évoqué au procès de Nuremberg, dont l'essentiel portait sur les crimes, la guerre, les exactions commises par les nazis en général, mais pas la question des camps de la mort telle qu'elle a été évoquée, enfin telle qu'elle a été traitée en Israël. Du coup, le nom d'Eichmann ne disait que très peu. D'ailleurs, celui de son supérieur, qui était le patron de la Gestapo, le général Heinrich Müller, n'était pas non plus très public. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, le général Müller n'est pas vraiment très connu, alors qu'il a joué un rôle essentiel. En tout cas, pour ce qui concerne Eichmann, c'est bien le procès qui a été le premier événement juridique ayant eu une portée mondiale, car il coïncide avec la naissance de la télévision. Et le fait que ce procès ait été filmé, c'est d'ailleurs grâce à cela que nous avons pu faire ce film avec les archives du
il
tournage.
Il n'y a aucun commentaire, il faut le rappeler, c'est assez formidable. Les archives parlent d'elles-mêmes, enfin plutôt les témoins, le procureur et bien entendu Eichmann, qu'on va entendre d'ailleurs un peu plus loin dans cette émission. Alors ça, c'est donc à cette époque qu'on découvre le personnage. Il a, il faut le rappeler, 54 ans en 1960. Il est né en 1906, adhère au parti nazi en 1932 dans les SS, dont il gravit tous les échelons. Vous l'appelez un spécialiste. Je crois que c'est la façon dont il était noté par ses supérieurs, la raison pour laquelle vous l'appelez comme ça, Ronny Broman.
Oui, et si nous avons repris à notre compte cette appellation, c'est parce qu'elle nous semblait méritée, elle nous semblait bien s'appliquer à cela. Qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste ? C'est quelqu'un qui a, ou qui estime avoir, une compétence dans un domaine donné, compétence que la société lui reconnaît. Donc, aussi bien du point de vue subjectif que du point de vue social, cette compétence est reconnue. Eichmann se considérait comme un spécialiste de la question juive. Il a pris des cours d'hébreu, des cours de yiddish, il a étudié les textes juifs, il cherchait à comprendre, à connaître la culture juive, l'histoire juive, et en ce sens-là, il se vantait, à juste titre ou non, ça je n'en sais rien, enfin il se vantait de connaître à fond toutes les questions juives.
Au point d'ailleurs qu'il est nommé donc responsable de l'Office central pour l'émigration des Juifs en Autriche en 1936, en Tchécoslovaquie en 1938, car à l'époque, on l'oublie souvent, il n'est pas question, même le nazisme étant arrivé au pouvoir et ayant étendu, et le Reich s'étant étendu à l'Autriche puis à la Tchécoslovaquie et plus tard au reste, il n'est pas encore question avant 1942, officiellement en tout cas, d'extermination, Ronnie Broman. Ce qui est prévu de faire, c'est l'expulsion des Juifs hors du Reich, et c'est Eichmann qui en est chargé.
Voilà, c'est l'expulsion, le transfert, comme on l'appelait à l'époque, des Juifs de l'ensemble de l'Europe sous domination nazie, donc au départ simplement de l'Allemagne, puis avec l'Anschluss et Munich, l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. Cet ensemble qui était placé sous la domination hitlérienne devait être vidé de ses Juifs, puis lorsque la guerre a éclaté. C'est de l'ensemble de l'Europe occupée qu'il fallait d'abord expulser les Juifs.
Il était question de Madagascar, à un moment donné, c'est un projet auquel Eichmann était attaché.
Était extrêmement attaché, en effet. Et puis à partir de 1941, la notion de solution finale a changé de sens. Le mot restait, comme une sorte de décret secret, mais son contenu, lui, avait considérablement évolué, puisque ça n'était plus l'expulsion, mais la destruction qui était à l'ordre du jour.
À l'ordre du jour, donc, à cette fameuse conférence de Wannsee en janvier 1940. Donc, une conférence à laquelle participait Eichmann aux côtés du bras droit de Adolf Hitler, de Heinrich Himmler, le général SS Reinhard Heydrich.
Des documents vous ont été remis, ils sont confidentiels. Aucune copie ne doit en être faite. Vous ne pouvez ni les montrer, ni en parler avec d'autres, excepté vos supérieurs. La façon dont nous traitons une affaire doit être tenue secrète à nos ennemis. On contrôle la situation bien mieux quand on contrôle l'opinion. Aujourd'hui, chacun de nous devient un porteur de secrets. Toute communication entre nous passera dans les deux sens par le lieutenant-colonel Eichmann. Il sera mon représentant pour les questions juives. C'est votre point de convergence. Bon, pour commencer, nous avons un problème de stockage avec les juifs. En juillet dernier, confronté à cette nouvelle situation, le Reichsmarschall Göring a préparé une directive dont vous avez une copie dans votre dossier. L'essentiel, si vous me permettez de lire. Par la présente, je vous charge de tous les préparatifs nécessaires, tant sur le plan financier que pratique, à la mise en œuvre de la solution finale de la question juive dans toute la sphère d'influence allemande en Europe. Ceci est notre mandat à tous. L'émigration, c'est terminé. Le colonel Eichmann va préparer une transcription de cette conférence. Chacun de vous recevra une copie. Vous pourrez la montrer à vos supérieurs, en aucun cas à un subalterne. Tous les commentaires me seront transmis de la manière la plus sûre par l'intermédiaire du colonel Eichmann.
Et c'était un extrait du film Conspiracy qui s'est inspiré totalement des comptes rendus faits par Eichmann de cette conférence de Wannsee à laquelle il participait. Ronnie Broman, à quel titre ?
Il jouait le rôle de secrétaire de Heydrich. Sa fonction était double. D'une part, d'exposer les données quantitatives de la question juive en Europe. Où sont les juifs ? Combien sont-ils ? C'était donc un tableau statistique, plutôt. Et ensuite, noter le compte-rendu, c'est-à-dire prendre acte des réactions des gens. Et d'ailleurs, une des choses que dit Eichmann, des choses les plus frappantes que dit Eichmann pendant le procès, c'est que aucun des grands personnages des secrétaires d'État, donc qui correspond à des directeurs d'administration ou des secrétaires d'État au sens où on l'entend ici, aucun de ces personnages, qui étaient des juristes essentiellement issus d'ailleurs de la République de Weimar, c'est un peu la continuité de l'État entre la période de Weimar et la période nazie, n'a jugé bon d'émettre la moindre protestation. Tous ont manifesté, contrairement à ce que pensait Heydrich, ce que craignait Heydrich, qui anticipait des réactions négatives, d'horreur, d'effroi, de recul.
Devant cette décision, la solution finale, c'était l'extermination.
Surtout que, sachons-le, ou rappelons-nous-en, ce n'était pas des dignitaires de la SS ou de la Gestapo qui assistaient à cette conférence. C'était des civils, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des gens, encore une fois, qui étaient au pouvoir avant l'arrivée du Troisième Reich. Donc, eux ont fait des propositions constructives, comme dit Eichmann, pour mettre en œuvre l'extermination des Juifs.
Alors, cela dit, il était plus qu'un secrétaire, car c'était évidemment la personne qui était l'intermédiaire entre Heydrich et les gens qui étaient présents à Wannsee, mais c'était aussi l'organisateur de cette énorme logistique qui a conduit, des trains notamment, qui a conduit les déportés dans les camps d'extermination, Ronny Broman.
Oui, ce sont ces talents d'administrateur, de logisticien, d'organisateur, talents qui étaient bien réels, qui ont été mis à contribution pour cela. Sa tâche consistait à identifier, rassembler, dépouiller et transporter. J'utilise là les quatre termes que lui-même emploie au moment du procès. Et cela, c'était un travail à la fois de police, d'administration et de logistique dans lequel Eichmann excellait. Il avait déjà fait ses preuves au moment de la première phase de la solution finale, celle dont nous parlions à l'instant, celle de l'émigration forcée, de l'expulsion donc, pendant laquelle il avait déjà fait ce genre de travail. Il fallait là aussi identifier, rassembler, dépouiller et envoyer à l'extérieur. Là, à la place d'envoyer à l'extérieur, il s'agissait d'envoyer vers les zones de destruction.
Un rôle, vraiment un rouage, mais un rôle clé, hein, évidemment. C'est pas lui qui arrêtait les Juifs, c'est pas lui qui les exterminait dans les camps, il n'a pas dirigé les camps, il était présent, il y allait souvent dans les camps. D'ailleurs, au cours de ce procès, j'ai découvert en fait que j'ai jamais entendu un dirigeant nazi reconnaître l'existence de chambres à gaz. Lui, il en parle parce qu'il les a vus.
Oui, d'ailleurs, pour moi, c'est un sujet d'étonnement permanent lorsque on entend parler des négationnistes, de ces falsificateurs de l'histoire qui contestent l'existence des chambres à gaz et d'un ordre de destruction physique des Juifs. On a, et cela depuis 1961, et puis bon, depuis maintenant 12 ans, il y a ce film, on a l'aveu explicite, qui n'est même pas véritablement demandé, qui est spontané, de la part d'un haut dignitaire SS, que Heydrich, sur ordre de Hitler, a transmis à Eichmann l'ordre de la consigne, plus exactement, le programme de destruction physique des Juifs. Il le date de juin 41, c'est-à-dire en fait du lancement de l'opération Barbarossa, l'attaque de l'Union soviétique. La date n'est peut-être pas tout à fait certaine, il y a débat entre les historiens là-dessus, mais la période, oui, elle est certaine, et l'aveu d'Eichmann, qui avait d'ailleurs un problème avec les dates, donc il se repérait pas très bien dans le temps, mais l'aveu d'Eichmann est absolument incontestable, et il a d'ailleurs été utilisé lors d'un procès intenté contre l'historien négationniste David Irving en Angleterre, comme preuve manifeste de cette réalité de la destruction des
Alors, témoin et acteur du génocide, il disparaît à la fin de la guerre, on ne va plus le retrouver pendant 15 ans, on le cherche à peine, d'ailleurs il est arrêté deux fois, et puis finalement par les Américains, et puis il a réussi à s'évader, il se cache en Autriche, puis en Italie, où un moine franciscain lui fournit un passeport au nom de Ricardo Clément, qui était je crois le nom d'ailleurs de ce moine franciscain, ce qui lui permet de partir en Argentine, où il est découvert en 1960 par le Mossad, avant d'être enlevé donc, et envoyé en Israël le 20 mai 1960.
La police israélienne vient de mettre la main sur l'un des plus grands criminels de la dernière guerre, un ancien colonel de SS, Eichmann. Écoutez ce que nous dit de Jérusalem André Chemama.
Les circonstances de la capture d'Adolf Eichmann, responsable du massacre de 6 millions de Juifs, sont encore mystérieuses et il semble que l'on ne saura pas de sitôt dans quelles conditions ni en quel lieu les services de sécurité israéliens ont pu s'emparer de lui. Mais pour l'instant, Adolf Eichmann s'est vu notifier par un juge israélien un mandat d'arrêt pour une durée de 14 jours.
Monsieur le juge Yedidia Alevi, c'est vous qui avez délivré le mandat d'arrêt de l'ancien colonel SS. Oui. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelles ont été ses réactions lors de cette formalité?
Eh bien, ses réactions ne se sont pas montrées sur son visage. Il était plutôt sous le coup de l'arrestation. Et il avait l'air plutôt calme et inquiet.
Est-ce que vous avez pu déceler dans son comportement un semblant de repentir?
Il me semble que non, parce que d'après ce qu'il a dit, il n'avait pas du tout l'air d'avoir de repentir.
Alors c'était il y a 50 ans, donc l'arrestation d'Eichmann, qui sera jugée quelques mois plus tard, en 1961. On peut se demander pourquoi Ben-Gourion a décidé, alors que personne ne parlait de Eichmann, brusquement de le faire enlever à l'étranger, ce qui présentait un risque dans ses relations avec l'Argentine où il a été découvert. Et il y a une chose, une phrase très troublante des mémoires d'une lettre de Ben-Gourion le 27 mai 1960. Il dit, quand on lui pose la question « Pourquoi ce procès ?»« Pour rappeler à l'opinion mondiale de qui sont les adeptes, ceux qui préparent la destruction d'Israël, et qui sont leurs complices, conscients ou inconscients. » Autrement dit, il fait un lien entre l'actualité, c'est-à-dire l'environnement de l'État d'Israël, et le procès Eichmann.
Oui, c'est un procès à la fois juridique et politique. Juridique, parce qu'il s'agit bien d'un criminel qui est jugé par un tribunal qui utilise le droit pour mettre à jour les faits et donc les sanctionner. Hein, donc c'est un jugement parfaitement équitable et Eichmann était tout sauf un innocent. C'était en effet un éminent criminel. De ce point de vue-là, le jugement est parfaitement juridique. Mais la fonction politique de cet événement ne doit pas être oubliée. D'ailleurs, comme tout événement, comme tout crime politique, son jugement a une dimension politique. Quelle était-elle ? Elle était en fait multiple. Il y avait à la fois le fait de faire le Nuremberg des Juifs, c'est-à-dire de placer Israël en situation d'État capable de juger les exactions commises contre son propre peuple. Ça, c'était la poursuite, l'extension, l'élargissement de Nuremberg. Il s'agissait également dans une dimension, dans une stratégie beaucoup plus politique, locale, celle que vous évoquez à l'instant, de montrer que les ennemis des Juifs d'hier, qui étaient les nazis, n'étaient pas morts et que, par exemple, à travers le personnage du grand moufti de Jérusalem, qui, il faut s'en souvenir, avait une notice dans l'encyclopédie des Juifs beaucoup plus importante que Eichmann ou Müller ou bien d'autres dignitaires nazis. Il s'agissait de montrer que les nazis avaient des héritiers. Ces héritiers entouraient Israël. Je vous rappelle qu'en 67, Abba Eban parlait des frontières Auschwitz pour désigner la nouvelle configuration d'Israël. Et puis, il s'agissait, alors donc, incriminer les voisins d'Israël, anticiper en quelque sorte sur des guerres à venir qui, par définition, serait des guerres d'autodéfense.
On est à 7 ans de la guerre des 6 jours.
Et puis, juste avant la construction de la bombe atomique israélienne, ouais, qui se passe dans les années 60, et avec lequel le procès Eichmann a sans doute quelques rapports. Et puis, troisièmement, il s'agissait de recréer l'unité israélienne qui était fortement entamée par des dissensions, voire des violences internes extrêmement graves, en particulier en rapport avec l'émigration des Juifs orientaux qui étaient cantonnés dans des camps depuis des années et qui s'étaient soulevés. Il y avait eu des bombes, des attentats, des violences, des morts. Et recréer cette unité israélienne par la souffrance des Juifs, voilà ce qui était l'enjeu du procès Eichmann.
Alors un procès qui a duré 9 mois, pendant lesquels Eichmann a plaidé non coupable quand on l'accusait d'être responsable du massacre des Juifs qu'il avait envoyé dans les camps de la mort.
Ces Juifs étaient envoyés au camp d'extermination, oui ou non ? Je ne le nie pas et je ne l'ai jamais nié. J'avais des ordres et je devais les exécuter conformément à mon serment d'obéissance. Malheureusement, je ne pouvais pas m'y soustraire et je n'ai d'ailleurs jamais essayé. En d'autres termes, vous étiez complètement passif, n'est-ce pas ? Passif, pas vraiment. Je faisais ce que je viens de décrire. J'ai obéi et j'ai exécuté ce qui m'avait été ordonné de faire. Vous dites que vous n'étiez pas un exécutant normal, que vous aviez votre part à la réflexion sur ces questions. C'est vrai, vous l'avez dit ? Non, je ne pense pas. Vous n'y participiez pas ? Pardon ? Vous étiez un imbécile, vous ne participiez pas à la réflexion ? Bien sûr que j'y participais. Vous n'étiez pas un idiot ? Non. Je vois, vous étiez un idéaliste alors. Oui, j'étais un idéaliste.
Et c'était encore une archive impressionnante, la voix d'Eichmann, extraite de votre film, Ronnie Broman. Eichmann prenant comme débutant, enfin se faisant passer au fond pour un simple exécutant. Je ne faisais rien en même temps, c'est pas très bien ce qu'il voulait dire, surtout le mot idéaliste.
Non, mais je crois que ça relève moins de la mauvaise foi d'Eichmann, qui, bien entendu, comme tout accusé, a une stratégie de défense. Ça fait partie du jeu. Mais ça relève moins d'une volonté de dissimulation ou d'une mauvaise foi que de la difficulté de la justice à appréhender un crime de masse, c'est-à-dire un crime qui se traduit par la mise à mort industrielle, donc une mobilisation sociale énorme de plusieurs secteurs, la banque, le chemin de fer, différentes administrations ministérielles, lui étant chargé d'orchestrer tout cela. Mais sur des ordres ordre, en effet, et jamais le procès n'a pu apporter le moindre témoignage d'une espèce d'enthousiasme de Eichmann à détruire les Juifs.
Il dit même dans son procès qu'il a réprouvé la solution finale, qu'il a demandé à plusieurs reprises à être relevé de ses fonctions.
Oui,
Arendt, est-ce que c'était vrai ?
Arendt, ça, c'est moins clairement établi. Il semble, c'est-à-dire, ça n'est pas établi du tout. Eichmann prétend qu'il a demandé oralement à être relevé de ses fonctions, que son supérieur n'a pas accepté et que donc il s'est remis au travail comme c'était son rôle, parce qu'un soldat ne déserte pas du front, comme il le dit, parmi les innombrables clichés qu'il manipule avec une aisance confondante, celui-ci faisait partie de sa défense.
Il y a des moments dramatiques aussi dans la salle, notamment lorsque on fait appel aux témoins qui racontent ce qu'ils ont vécu dans les camps, et puis aussi un membre, et même plusieurs membres, je crois, du Judenrat. Alors ça, c'est une organisation dont j'ignorais l'existence, c'est-à-dire le Conseil juif qui, en fait, était chargé de la gestion notamment des ghettos et en rapport avec les SS.
Oui, c'était des structures administratives qui ont été mises en place à l'ouest par pays. Par exemple, en France, il y avait l'UGIF qui a été mise en place d'ailleurs par Vichy, mais sous contrôle des nazis, l'Union Générale des Israélites de France. Donc à l'ouest, c'était par pays et à l'est, c'était par ghetto. Donc chaque ghetto avait son administration, son système, disons, d'autogestion qui représentait une interface entre la population juive concentrée dans les ghettos et la Gestapo qui transmettait ses ordres, ses desiderata. Et donc, les conseils juifs avaient pour fonction à la fois d'administrer le social, organiser le ravitaillement, les soins, l'éducation, mais également d'identifier les juifs au nom de la Gestapo, de convoquer des rassemblements et de remettre chaque semaine, ou enfin un rythme qui était déterminé par la Gestapo, un certain nombre de juifs pour la déportation.
Et donc, en rapport effectivement avec les SS, notamment, ils ont rencontré à plusieurs reprises.
Ce qu'il faut préciser peut-être sur les conseils juifs, c'est qu'on voit de tout, essentiellement de la coopération avec les nazis pour ne pas parler de collaboration, mais également de la résistance de façon minoritaire.
Alors, autre particularité du procès et de la défense d'Eichmann, il reconnaît la monstruosité de ces crimes, des crimes du nazisme, au cours d'une des dernières et des plus impressionnantes journées de son procès.
Vous considérez-vous coupable de complicité dans le meurtre de millions de juifs, oui ou non ? Coupable du point de vue humain, oui. Parce que je suis coupable d'avoir organisé les déportations. Les regrets sont inutiles. Personne ne peut être amené à la vie par des regrets. Les regrets, c'est bon pour les enfants. Ce qui est plus important, c'est de trouver le moyen d'empêcher que de tels événements soient possibles dans l'avenir. Vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de donner une réponse claire. Je tiens à déclarer que je considère ce meurtre, l'extermination des Juifs, comme l'un des crimes majeurs de l'histoire de l'humanité.
Alors, de tous les dirigeants nazis qui ont pu être condamnés à Nuremberg, je n'ai jamais entendu, aucun, à ma connaissance, n'a parlé. Bon, tous ont dit « je n'ai pas de regrets », mais aucun n'a reconnu comme lui la monstruosité des crimes. On vient de l'entendre, Eichmann parler des crimes dont il se sent responsable et pas coupable. Parler aussi, dire pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. C'est quand même très étonnant dans la bouche d'un ancien responsable du génocide.
Oui, c'est étonnant. Enfin, ça peut s'interpréter comme le fait que Eichmann était dans un environnement israélien,
c'est pour sauver sa tête,
et que peut-être pour sauver sa tête, peut-être qu'il a fini par croire lui-même que la description de son travail démontrerait qu'il était pour rien dans la conception de la solution finale, ce qui, à mon avis, est la réalité, et que donc il parviendrait à s'évader, à échapper à la peine de mort. Peut-être que non, peut-être qu'il s'agit aussi d'un des nombreux clichés qu'il manipule. Par exemple, c'est la façon dont Arendt décrit ce moment de son procès lorsque Eichmann prononce pratiquement une oraison funèbre, comme s'il était en train d'assister à sa propre mise en bière.
Anna Arendt qui a assisté au procès et aussi à la condamnation à mort le 15 décembre 1960 d'Eichmann et même à son exécution, c'était peu avant minuit, le 31 mai 1961, Paris Inter, André Semama.
Adolf Eichmann a été pendu cette nuit dans la prison de Ramleh près de Tel Aviv. 10 personnes ont assisté à l'exécution de celui que le tribunal de Jérusalem avait condamné à la peine capitale pour avoir organisé et réalisé l'extermination de 6 millions de personnes. Devant les fonctionnaires, les gardiens et les journalistes qui l'entouraient dans la salle d'exécution, et alors qu'on lui passait la corde au cou, il prononça d'une voix calme : « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, trois pays que j'ai aimés. Je salue ma femme, ma famille et mes amis.
À 23h58, un ordre retentit et la trappe s'ouvrit sous les pieds du plus grand criminel de l'histoire. Son corps fit une chute de 1 mètre et la mort fut instantanée. Conformément à la loi, le corps est resté pendu une heure après le constat du décès. Ce matin à l'aube, un communiqué officiel annonça que la dépouille d'Adolf Eichmann a été incinérée à bord d'une embarcation de la police et ses cendres jetées en haute mer.
Et c'était donc la mort de Eichmann, commentée par André Semama, qui parle du plus grand criminel de l'histoire. On l'a entendu, René Broman. Il y a quand même eu Hitler, il y a quand même eu Himmler, il y a quand même eu d'autres criminels pour d'autres types de crimes comme Staline. Le plus grand criminel, c'est peut-être un peu exagéré, non ?
Oui, oui, en effet, mais enfin, d'un point de vue israélien, ça se conçoit, puisque Eichmann était le seul haut dignitaire nazi dont la tâche consistait à détruire les Juifs. D'ailleurs, pas seulement les Juifs. On a oublié que son département, le département 4B4 du RACHA, son département de police, était chargé de la déportation non seulement des Juifs, mais également des Polonais, des Slovènes et des Tziganes. Il a quand même déporté 2,5 millions de Polonais, ça n'est pas tout à fait rien, ce qui d'ailleurs va dans le sens d'une désidéologisation, enfin d'un homme qui agit parce qu'il est soumis à la hiérarchie, il obéit au serment qu'il a prêté au Führer, et que c'est ça pour lui la morale. C'est ça d'ailleurs qu'il appelle l'idéalisme, agir pour une œuvre plus grande que soi, même si on désapprouve cette œuvre. On s'extrait de soi-même, on est plus grand que le personnage dans lequel on est enfermé, d'une certaine manière. C'est comme ça que Eichmann définit son idéal. Et d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'idéalistes du XXe siècle qui pourraient répondre à cette définition aux côtés d'Eichmann, les idéalistes qui ont tourné au crime.
Eichmann n'était pas connu lorsqu'en 1960, il y a 50 ans, on apprend qu'il a été découvert en Argentine, arrêté, envoyé en Israël pour y être jugé, condamné à mort. Et depuis, on parle de lui parce que ce procès, évidemment, a été abondamment commenté, suivi par tous les médias du monde, mais aussi à cause d'un livre, ou grâce à un livre de Hannah Arendt, justement, que vous avez cité, et qui s'appelle « Le rapport sur la banalité du mal ». Et ce livre a fait scandale. En même temps, il fait réfléchir, parce que jusque-là, au fond, les nazis, c'était des malades mentaux, des fous, des psychopathes, et là, ce sont des hommes ordinaires comme Eichmann. C'est ça qu'elle dit, René Broman.
Oui, c'est-à-dire que Arendt était... son livre s'appelle donc « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal ». Le rapport, c'est plutôt dans le sens reportage. Elle oui. voulait... parce que c'est « report », c'est l'anglais « report » qui est traduit par « rapport ». Elle avait fait son grand œuvre sur le totalitarisme, les origines du système totalitaire, et elle voulait aller à Jérusalem voir un sujet totalitaire. Comment s'incarnait, comment se mouvait, comment regardait, comment parlait un sujet éminent de ce système totalitaire qui était Eichmann. Et elle découvre le contraste entre l'immensité des crimes et le caractère ordinaire de ce petit homme qu'on décrit comme médiocre, etc. Je trouve qu'il y a des considérations, des jugements qui sont assez déplacés. C'est un homme ordinaire, en effet, un bourgeois déclassé qui rattrape son déclassement par une ascension dans l'ESD, puis
n'importe qui peut
donc,
faire ce qu'il a fait.
Eichmann est coupable d'obéissance. Il se défend en arguant de l'obéissance à laquelle il était soumis, et on peut dire qu'il est coupable. Alors, beaucoup de gens obéissent, c'est à ce titre. Mais enfin, c'est lui qui a commis le crime, et donc Eichmann n'est pas n'importe lequel d'entre nous, car nous n'avons pas commis ces crimes.
Éloge de la désobéissance, c'est d'ailleurs le titre justement de votre livre, écrit avec Eyal Sivan, et dont s'est inspiré le film dont nous avons tiré des extraits, tout à fait impressionnant. Adolf Eichmann, un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, un film de René Broman, donc Eyal Sivan, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Je rappelle également que une biographie d'Eichmann vient d'être écrite par David Cesarini, Adolf Eichmann, qui vient de paraître chez Talendier. A recommandé aussi la traque d'Eichmann, la plus grande chasse à l'homme de l'histoire, de Neil Bascombe, publiée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Conspiration de Franck Pierson, édité en DVD aux éditions Cinéma Indépendant, et donc votre film Adolf Eichmann, donc un spécialiste aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique d'Ophar Guérid et Guillaume Roux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Camille Blanès, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, sans transition, la légende des sirènes.